Bonjour et bienvenue. La France, un pays riche, mais qui fait face à un vieillissement certain et aussi à pas mal de disparités sur son territoire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces questions, les dynamiques de population, les inégalités économiques et sociales. C'est un chapitre clé, hein, souvent vu en seconde. On va essayer de décortiquer ça ensemble.
Oui, et pour faire ça bien, on s'appuie sur du solide. Je pense aux données de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, et aussi à l'Observatoire des territoires. Ce sont des sources fiables, reconnues. C'est essentiel.
D'accord. Donc l'objectif, c'est de bien saisir les grandes différences démographiques, les inégalités qui marquent la France, et puis aussi ce qui est fait pour essayer d'y répondre. Commençons peut-être par la population elle-même. Le premier constat, c'est assez connu, c'est que la population française vieillit, globalement.
C'est la tendance de fond.
Mais ce vieillissement, il n'est pas pareil partout, si je comprends bien.
Ah non, pas du tout. C'est là que ça devient intéressant. Les grandes villes, les métropoles, elles restent souvent plus jeunes. Elles attirent les actifs, les étudiants, alors que certaines zones rurales, elles, voient leur population vieillir plus vite.
Et l'outre-mer, c'est encore différent.
Complètement. Là, on a des situations très contrastées. Prenez la Guyane ou Mayotte. La population y est extrêmement jeune. Ça tranche radicalement avec la métropole. C'est une vraie mosaïque, en fait.
Et les gens qui déménagent en France, ça joue aussi, les migrations internes ?
Bien sûr, ça accentue ces contrastes. L'Île-de-France, par exemple, elle attire toujours beaucoup, ce qui aide à maintenir une certaine jeunesse. Mais d'autres régions, comme dans le sud, accueillent pas mal de retraités, ce qui contribue aussi à leur vieillissement.
D'accord. Donc, démographie contrastée. Et ça, ça se couple avec des inégalités économiques et sociales, j'imagine.
Exactement. Les deux sont très liés. Et là aussi, attention, c'est complexe. Ces inégalités, on les observe à toutes les échelles.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il y a des écarts énormes entre l'outre-mer et la métropole, ça c'est clair, mais aussi entre les régions métropolitaines elles-mêmes, et puis, de façon très très visible, à l'intérieur même des villes, d'une rue à l'autre parfois.
Oui, ça on le sent bien. Vous avez des exemples concrets ?
Prenons Saint-Denis de la Réunion. C'est une ville où la pauvreté est assez présente, et les écarts de revenus sont forts. Différemment, Nantes a un niveau de vie médian plus élevé, avec des inégalités moins marquées.
Et au niveau des quartiers, vous disiez que c'était très net ?
Ah oui, si on zoome encore, c'est frappant. On compte environ 2300 quartiers dits prioritaires ou pauvres, à côté de quartiers aisés. Ça concerne quand même 11 millions de personnes.
Et le profil des habitants n'est pas le même ?
Plus jeunes dans les quartiers pauvres, plus de familles monoparentales aussi.
Et ce n'est pas juste une question d'argent, j'imagine.
Non, loin de là. Ça touche la réussite à l'école, l'accès aux médecins, à la culture. C'est un tout. Ces inégalités ont tendance à s'aggraver, même si, heureusement, il y a des choses qui atténuent un peu.
Comme quoi, par exemple ?
Les solidarités familiales, ça joue beaucoup. Et puis aussi ce que certains économistes appellent l'économie présentielle, ou les flux non marchands. Les retraites, les aides sociales... Cet argent qui circule et qui soutient l'économie locale, même dans des zones moins dynamiques.
Face à tout ça, des actions sont menées quand même.
Oui, heureusement. L'Union européenne met de l'argent via certains fonds. L'État, bien sûr, est très actif. Et puis les collectivités locales, les régions, les départements, les mairies. Chacun essaye d'agir à son niveau.
Pour faire quoi concrètement ?
Les actions sont très diverses. Ça peut être des grands plans de rénovation des quartiers pour améliorer le cadre de vie. Ça peut être des mesures pour essayer d'avoir plus de mixité sociale dans les écoles. Ou encore lutter contre les déserts médicaux, ce manque de médecins dans certaines zones.
Ah oui, les déserts médicaux, on en entend beaucoup parler.
Voilà. Et il y a aussi des politiques ciblées pour les territoires qui vieillissent très vite, comme la Corse ou certaines zones du Massif central, pour essayer de les accompagner.
Mais malgré tout ça, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on arrive vraiment à gommer ces inégalités ?
C'est toute la difficulté. C'est une tâche immense, soyons clairs. Réduire complètement les écarts entre territoires, entre riches et pauvres, entre générations, c'est un défi énorme. Les politiques publiques aident, mais elles ne peuvent pas tout résoudre.
Donc, si on devait résumer un peu...
Eh bien, on a une France démographiquement contrastée, vieillissement général, mais très inégal selon les lieux, et puis des inégalités socio-économiques fortes qui se voient partout, à toutes les échelles.
Et des politiques qui tentent d'agir, mais avec des résultats mitigés, ou en tout cas insuffisants pour tout régler. La cohésion reste un objectif, un combat permanent.
Exactement. Et ça ouvre une question pour l'avenir, une question assez fondamentale, je trouve. Comment est-ce que les grandes transformations qu'on vit, ou qui arrivent, je pense à l'écologie, ou numérique, ou nouvelles façons de bosser, l'IA peut-être, comment tout ça va jouer sur ces dynamiques et ces inégalités ? Est-ce que ça va les aggraver ? Les réduire ou créer de nouvelles fractures qu'on n'imagine même pas encore.
C'est une excellente question pour terminer.
de quoi réfléchir. Voilà pour cette exploration des dynamiques françaises nourries par des données solides. Un grand merci d'ailleurs à Alexandre et Nicolas pour leurs recherches qui nous ont permis de préparer tout ça.
Oui, merci à eux.
Et merci à vous de nous avoir écoutés.